Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Podcast de l'Académie des sciences.
Je suis au téléphone avec Gérard Berry, qui est bien loin, tu es en Provence, c'est ça ?
Dans le Gard du Nord, oui, en pleine garrigue.
Gérard, tu es informaticien, tu es ancien professeur au Collège de France. J'aime bien quand tu dis que tu es émérite, en fait tu dis que tu es plein de mérite, c'est ça ?
Oui, émérite, ça veut dire sorti du mérite.
Sorti du mérite, voilà. Tu as beaucoup travaillé sur l'informatique, bien sûr, mais sur les bugs et la certification de programmes informatiques, etc.
Que c'est ? Ça peut provenir d'un bug dans la matrice. Ça arrive quand il la modifie.
Tu vas participer à un colloque sur les erreurs en sciences, et j'aimerais qu'on parle des erreurs informatiques. Et si j'ai bien compris, tu voudrais qu'on se concentre sur des erreurs humaines en informatique. C'est bien ça ?
Ah ben oui, parce qu'il n'y a pas d'erreur non humaine en informatique, quasiment pas. C'est-à-dire que la physique des circuits est presque parfaite, en plus elle peut être très très bien surveillée et corrigée, et donc c'est pas là qu'est le problème. Le problème c'est chez les hommes, pour une raison extrêmement simple, c'est que l'ordinateur est une machine qui est exactement à l'opposé de l'homme. J'ai coutume de dire que l'homme a trois caractéristiques. La première, c'est qu'il a des idées qui sont parfois justes, parfois fausses, c'est pas très grave. La deuxième, c'est qu'il est très très lent, comparé à un ordinateur. Et la troisième, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs, mais ça ne gêne pas trop, parce qu'il les corrige, etc. Et qu'en général, elles n'ont pas beaucoup de conséquences. Il y en a qui ont des conséquences, mais pas tellement. L'ordinateur est exactement à l'envers. Il est totalement idiot. Ses instructions sont d'une bêtise absolue. Il ne sait absolument pas ce qu'il fait.
Oui, Gérard a sûrement raison, au moins aujourd'hui, mais demain, avec l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez de 2001, Odyssée de l'espace, et cet ordinateur qui dit « J'ai peur ».
I'm afraid. I'm afraid, Dave. My mind is going.
Il est extraordinairement rapide et il ne fait jamais d'erreur.
Quand tu dis il ne fait jamais d'erreur, il n'y a aucun exemple où... je ne sais pas, un rayon cosmique, ou c'est des choses qui peuvent arriver ou qui n'arrivent jamais.
C'est des choses qui peuvent arriver, qui se détectent.
Oui.
Et il y a beaucoup de codes correcteurs à l'intérieur des ordinateurs, surtout ceux qui sont un peu critiques comme ça. Donc ça peut arriver, ce n'est pas impossible, mais disons que c'est à peu près invisible dans le domaine des bugs.
D'accord.
Surtout qu'on peut, les rayons cosmiques, il y a des technologies contre les rayons cosmiques, etc. Ça ne concerne pas trop les avions, mais pour les satellites, c'est un problème. Et il y a les technologies spéciales, je dirais que la physique n'est pas du tout un embêtement pour nous.
D'accord, donc ce que tu dis, c'est que quand tu as une erreur informatique, c'est chercher l'homme.
C'est chercher l'homme, parce que l'homme, il est incapable de faire des très longs textes avec beaucoup de choses dedans, beaucoup, 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 ça peut être des millions, des dizaines de millions de lignes, sans faire d'erreur. C'est extrêmement difficile. Les gens qui ne connaissent pas du tout le sujet parlent des petits génies de la programmation. Alors ça n'existe pas du tout. Si on prend un autodidacte mal formé, à moins qu'il soit extrêmement spécial, ça peut exister, il va se tromper tout le temps, mais il ne s'en apercevra pas en général, parce qu'il ne va jamais tester ses programmes correctement, et puis il va tester le comportement qui lui plaît, puis pas celui qui ne lui plaît pas, voilà. Donc ça, c'est absolument constant. C'est vrai pour les gens pas formés, c'est vrai pour les très gros projets qui souvent meurent de leur lourdeur. Hein.
« Si je fais une comparaison avec les mathématiques, des fois, il y a des très très longs textes qui peuvent contenir des erreurs par-ci, par-là, mais d'une certaine manière, il y a une espèce de stabilité. Les petites erreurs, on s'en rend compte relativement facilement. Est-ce que pour un programme d'informatique, c'est un peu la même chose ?
Oui, oui. Alors là, c'est vraiment une différence absolue. En mathématiques, on s'intéresse aux théorèmes et on fait des preuves pour garantir les théorèmes. Il y a en général plus d'informations dans le théorème que dans la preuve, c'est pas toujours vrai, mais il y a plus d'informations dans le théorème que dans la preuve. Une preuve peut être fausse très longtemps et corrigée, et oui, il y a une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là. Donc on s'intéresse, les mathématiques, ça fabrique essentiellement des théorèmes. Les programmes, ça fabrique essentiellement des preuves. Les théorèmes sont pas... On peut considérer que ça fait des théorèmes, mais les théorèmes sont sans intérêt, et c'est les preuves qui sont intéressantes. Par exemple, il y a un théorème trivial qui dit qu'on peut trier une liste, mais un algorithme de tri qui trie une liste, c'est une preuve qu'on peut trier une liste. Et là, le problème, c'est que l'ordinateur exécute la preuve, et donc s'il y a un bug dans la preuve, ben, il le fait avec une conscience professionnelle absolue. Et c'est très facile. Par exemple, je prends l'exemple d'un truc tout bête. On prend un carrelage et on trace un trajet d'un point à un autre avec trois ordres, tout droit, à droite, à gauche. Et à chaque carrefour, à chaque croisement des lignes du carrelage, on fait le truc qui est indiqué. Alors je fais ça dans mes classes avec des gamins, avec des adultes, c'est pareil. Je leur donne un texte, il y en a un qui lit le texte, l'autre qui fait le texte avec ses pieds. Absolument jamais il n'arrive au bon endroit. Sur un texte de 15 de long. Hein. Parce que, simplement, nous, l'erreur, ce n'est pas un problème pour nous. Donc, ils n'y arrivent pas. Alors, ils sont extrêmement surpris de ne pas y arriver. C'est rigolo.
Te dire, à tous les coups, c'est le gamin qui va à droite au lieu de à gauche une fois, quoi.
Ouais, ou tout droit, ou celui qui lit, qui s'est gouré de caractères, et tout ça. Alors, il faut comprendre qu'un texte de programme, ça fait des millions de caractères. Alors, les mathématiciens parlent d'algorithme. Et l'algorithmique, c'est quelque chose d'assez compact, qui peut être très difficile mathématiquement, ça c'est sûr, mais très compact, très malin, avec des textes qui ne sont pas très grands. Mais un programme, ce n'est pas ça, c'est énormément d'algorithmes. Et quand on prend un algorithme très malin et qu'on le traduit en programme, eh ben, il arrive souvent qu'il soit faux. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup de programmes parallèles, c'est-à-dire qui se communiquent, qui travaillent en coordination, et ça, c'est absolument terrible pour les erreurs. Donc, on ne sait pas trop faire ça. Qu'est-ce que ça peut faire un bug ? Eh bien, ça peut faire énormément de choses. Avant, on testait le comportement normal des programmes. Maintenant, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tester tous les comportements des programmes. Pourquoi ? Parce que, typiquement, un programme qui écrit dans une zone mémoire qu'il n'a pas allouée, c'est-à-dire, il n'a pas réservé la zone de mémoire, il écrit dedans. C'est extrêmement fréquent. Eh bien, c'est à la racine de, je dirais, 80% des trous de sécurité des programmes. Ça ne se voit pas quand on exécute le programme, ça ne se voit pas. Mais quand on le regarde de l'extérieur, quand on est un chercheur en sécurité mauvais, eh bien, on peut utiliser ça pour rentrer dans le système complet.
Tu peux donner des exemples explicites de programmes qui concernent monsieur, madame, tout le monde ?
Ah ben, tous. Par exemple, les systèmes d'exploitation. Si on regarde Apple ou Windows, les messages, alors ils rédigent leurs messages très bien pour qu'on ne comprenne pas. Ils disent « correction d'une écriture hors mémoire qui permet à un attaquant d'exécuter un code assembleur en mode superviseur ». Alors ça veut dire quoi ? C'est incompréhensible pour le commun des mortels, ça veut dire « correction d'un énorme trou qui permet à quelqu'un de prendre le pouvoir total sur la machine ». C'est aussi simple. Et donc ça, ce n'est pas du comportement normal. En général, on ne teste que le comportement normal. Donc là, dans les programmes, il y en a pas mal. Par exemple, il y a des corrections de système tout le temps en ce moment. Et puis si on lit ces corrections, le texte n'est pas si facile à trouver. Ben, ça se trouve.
Mais tu me dis qu'il faut tester sur toutes les situations, y compris celles qui ne sont pas normales. Elles sont probablement beaucoup trop nombreuses pour tout tester, non ?
Alors, ça c'est extrêmement intéressant. Par exemple, les deux robots martiens dont on a beaucoup parlé, Pathfinder et Spirit, ils ont failli mourir à leur naissance. Ils rebootaient pas, ils redémarraient pas, une fois sur Mars. Pourquoi ? À cause de bugs extrêmement subtils, très rigolos. Et ils ont été corrigés à distance par les ingénieurs sur Spirit. Ils ont mis 34 heures, je crois, qu'il, au bout de 36 heures, il était mort, il n'y a plus de batterie. Ils rebootaient sans arrêt. Et c'était très, très con, hein. C'était un bit à changer. Un bit à changer dans le système pour que ça marche. Ça a marché.
Et pourquoi cette erreur n'a pas été détectée au sol avant de partir ?
Eh bien, parce qu'elle ne s'est pas produite. Elle était dans un cas particulier. Il y avait eu beaucoup d'informations pendant le trajet. Ça avait saturé un peu la mémoire qu'il utilisait. Et la mémoire était allouée, mais elle était mal désallouée à cause d'une vieille bibliothèque de Microsoft. Parce que les gens ne changent pas un programme qui marche. Très dangereux. Et ça ne va pas être détecté, simplement. Et puis, bon, ils sont tombés dessus. C'est vicieux, hein, c'est ça le problème. Il y a deux méthodes. Il y a le test. Le test, ça fait tomber tout un tas de trucs triviaux. Il faut dire que Dijkstra, par exemple, a dit en 1971, je crois, il a dit, le test, ça permet de trouver des erreurs, mais ça permet jamais de prouver qu'il n'y en a pas. Donc le test, c'est la méthode universelle, je dirais. Et puis il y a une autre méthode qui a encore une fois été introduite par Turing, ça personne ne le sait, dans un autre manuscrit de 1947, où il disait, tester les programmes, ce n'est pas suffisant, il faut les prouver. Et il donnait une preuve d'un programme en langage machine, hein, avec des adresses en dur, même pas des lettres. Il donnait un programme en langage machine pour la factorielle, il n'y avait pas de multiplieur ni rien dans sa machine, et il prouvait le programme avec une méthode qui s'appelle les assertions, qui est toujours utilisée, qui est attribuée en général à Floyd, mais c'est Turing en fait.
Donc tu es en train de dire qu'il y a deux méthodes, soit on prend le programme et puis on le teste autant qu'on peut, dans des circonstances les plus variables possibles, ou la deuxième méthode, on essaye de le démontrer un peu comme un théorème, quoi. On vérifie qu'il est syntaxiquement correct, quoi.
C'est ça, il y a une méthode qui est vraiment informatique, c'est on fait les essais, on écrit, d'abord on écrit rigoureusement, ça c'est pas toujours vrai, ensuite on fait avec des bons langages, c'est pas toujours vrai, et puis on teste, et l'autre méthode c'est on va faire de la logique. Et là, il y a de la logique formelle extrêmement puissante pour faire ça, hein. Il y a plusieurs sortes de logique. Par exemple, dans les circuits, on fait des preuves en calcul booléen. Alors le calcul booléen, c'est un des grands mystères des mathématiques. Et avec ce calcul qu'on pensait absolument impossible il y a 20 ans, maintenant il y a des algorithmes absolument remarquables, dont on ne sait d'ailleurs pas pourquoi ils marchent, mais c'est comme ça, c'est un problème, ce qu'on appelle NP complet, c'est-à-dire si on le résout, on a gagné $1 million et probablement le prix Turing, etc. C'est des problèmes les plus durs qui existent. Il y a des méthodes depuis les années 98, je crois, qui permettent de faire ça très bien. Donc, je me suis beaucoup servi, moi, personnellement, sur des avions, par exemple. Ça sert à faire des très grandes preuves en mathématiques aussi, ça. Par exemple, en combinatoire, il y a des très, très grandes preuves sur la théorie des nombres qui sont faites, alors c'est trouver des contre-exemples typiquement, qui peuvent être faits le dernier, je crois qu'il a mis 4700 CPU sur une machine, évidemment avec beaucoup de processeurs. Donc ça c'est intéressant, mais la méthode la plus, pour les programmes les plus généraux, la méthode vraiment maintenant, c'est la logique. Il y a eu un événement qui était le Pentium, qui faisait une mauvaise division de temps en temps. Alors ça a coûté extraordinairement cher à Intel, $500 millions, hein, c'est cher des bugs. Hein. Et qui a été prouvé avec un système qui s'appelle HOL, un système anglais, qui a été prouvé à Intel, correct, le diviseur corrigé, a été prouvé correct dans tous les cas. Or la division, le nombre de cas est absolument incroyable.
Quand on t'écoute, ça donne un peu froid dans le dos. Est-ce que je dois avoir confiance dans mon ordinateur ? Est-ce que je dois avoir confiance quand je monte dans un avion ? Est-ce que je dois avoir confiance dans SNCF Connect, etc.
Alors, là, vraiment, il y a des grosses différences. Ce qui est connecté à Internet et ce qui n'est pas connecté à Internet, c'est pas pareil, d'abord. quand on n'est pas connecté à Internet, bah, envahir, ce n'est pas très facile. Ça peut être possible, mais ce n'est pas très facile. Donc ça, c'est le cas de l'avion. Normalement, l'avion est très ségrégué, c'est-à-dire les commandes de vol, moi je sais que c'est fait avec toutes nos technos françaises, hein, les commandes de vol des Airbus, toutes sont faites avec nos technos. Mais ben, ça, c'est des ordinateurs qui sont disjoints des autres, des réseaux qui sont normalement disjoints des autres. Alors dès qu'on partage quelque chose, ben, faut être absolument sûr qu'il n'y a pas de fuite, ça c'est clair.
Et c'est le cas.
Oui, mais si on ne partage pas, c'est plus lourd, donc... oui, les compromis sont durs à trouver en pratique. Alors SNCF Collège, je suis sûr que c'est plein de bugs. Ça a été fait par des équipes énormes. Je crois qu'il y avait 400 personnes, quelque chose comme ça, au lieu d'être fait par 20. Ça, c'est la SNCF. Il y a des systèmes qui marchent très bien pour réserver les trains. Je ne veux pas faire la pub, mais SNCF Connect est très lourd, très compliqué, plein de pubs. Bon.
Tu me dis que 400 personnes ont travaillé sur cette application. Alors, ça me fait penser à la question suivante. Et je voudrais savoir si tu l'appliquerais aujourd'hui à des informaticiens ou à des jeunes informaticiens. Moi, mathématicien, j'ai toujours dit à mes étudiants qu'ils n'ont pas le droit, disons déontologiquement, ils n'ont pas le droit d'utiliser un théorème publié ailleurs et qu'ils ne comprennent pas. Ils doivent être capables de maîtriser tout ce qu'ils utilisent, au moins dans l'esprit, ça, peut-être pas jusqu'au bout. Mais utiliser une boîte noire en disant « Ah, tel article a été publié il y a 30 ans dans tel journal, donc j'ai le droit de l'utiliser », ça ne me plaît pas. Et j'essaye de convaincre mes étudiants, c'est de plus en plus difficile, que c'est pas bien, et qu'il y va de l'honneur des mathématiques, en quelque sorte. Est-ce que quelque chose de cette nature existe en informatique ?
Alors, ça ne peut pas. Justement, c'est vraiment le problème de la taille. Les mathématiques, fondamentalement, ça ne fait rien. D'accord ? Ça ne fait rien, ça produit des théorèmes, c'est beaucoup, mais ça ne fait rien dans le monde réel, encore que nous, on utilise beaucoup de maths, hein, mais ça ne fait rien dans le monde réel. Mais sur un ordinateur tout nu, on ne peut rien faire. Ce qu'on appelle le bootstrap des ordinateurs, c'est le fait qu'on puisse faire quelque chose avec des ordinateurs, c'est dû à des millions de lignes de code superposées les unes aux autres, de librairies qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et qu'on importe, on sait ce qu'elles font, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a des vagues descriptions de ce qu'elles font. Des fois, il y a des descriptions mathématiques, mais c'est très rare. Et donc, on dépend par exemple de Windows ou de macOS ou tout ça, et ça, c'est des choses qui font des dizaines de millions de lignes de code, même Linux. Et donc ça, on ne peut pas avoir cette opinion-là. On ne peut pas lire, aucun homme ne peut lire 10 millions de lignes de code. Et bien ça, il faut vivre avec. Et c'est pour ça que la rigueur doit être vraiment augmentée. Et on peut le faire, par exemple, avec Coq, le système initié par Gérard Huette et Thierry Coquan, qui a fait ses preuves d'abord dans un autre domaine, c'est la démonstration mathématique, avec la démonstration par Georges Montier, entièrement en machine, du théorème de Feit-Thompson sur la classification des groupes d'ordre impair, qui est un théorème dont la preuve mathématique faisait 250 pages, et avait publié 63 et corrigé jusqu'en 92.
Il ne s'agit pas de trouver la démonstration, il s'agit de la vérifier, n'est-ce pas ?
Il s'agit de l'écrire, d'abord. Encore, l'écrire et la vérifier, c'est la même chose.
Oui, excuse-moi.
C'est la logique constructive.
Mais je vais défendre mon business. Il s'agit d'abord de la trouver.
Alors, attention, elle était déjà là.
Et c'est ce que je veux dire, oui, tout à fait.
Oui, bien sûr, ça n'a pas fourni de nouveaux théorèmes. Alors, il y a des nouveaux théorèmes qui ont été fournis maintenant, mais ça n'a pas fourni de nouveaux théorèmes. Et ce n'est pas la question. Ça a démontré la possibilité de faire d'énormes démonstrations.
Est-ce que tu pourrais me raconter, parce que je ne suis pas sûr de bien le connaître, l'origine du mot bug ? Est-ce que ce n'est pas un peu à l'encontre de ce que tu disais au début ? C'est des petites bestioles qui corrompaient les programmes, c'est ça, non ?
L'origine fausse et répandue, c'est que Grace Hopper, la première informaticienne qui a fait COBOL, qui était quelqu'un d'extraordinaire, il y avait beaucoup de femmes à l'époque, hein, maintenant il n'y en a plus, mais il y en avait beaucoup. Il y a un insecte qui s'était coincé dans les rouages de son ordinateur, ça avait planté l'ordinateur. J'ai montré au Collège de France une photo de cet insecte. Mais ce n'est pas de là qu'est du bug, c'est beaucoup plus vieux. Edison employait le mot bug quand il disait, quand on fait un très grand projet bien fait, il y a toujours des petits bugs qui viennent vous emmerder sur le trajet.
Ah, et ça remonte à Edison.
C'est assez ancien, en fait.
D'accord.
Puis c'est un mot qui est né, quoi. Il est né, puis personne ne connaît son existence, mais c'est pas bien grave. J'aime la musique classique, le jazz, la musique contemporaine qui fait dialoguer informatique et humain, ça c'est vraiment extraordinaire. La musique indienne, j'ai une grande passion pour la musique indienne, les musiques ethniques.
Et la musique électroacoustique, qu'est-ce que tu en penses ?
Ah ben, je travaille avec Philippe Manoury, qui est le roi de ça, qui est un très grand compositeur et qui fait de la musique mixte électroacoustique et humaine. Et je pense qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire, que les hommes ne peuvent pas faire.
Alors donne-moi un exemple de musique que je pourrais utiliser dans ce style.
Un bout de Tencio, par exemple.
Alors, à la demande de Gérard, vous avez écouté quelques extraits de Tencio avec électronique de Philippe Manoury. Le quatuor Deotima avec Gilbert Nuno à l'électronique.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.